Salut tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre nouvel épisode de ActuVu, l'émission qui récapitule l'actu de la semaine. C'est moi, Valentine, qui vous accompagne aujourd'hui. Au programme, Solène reviendra sur un nouveau projet de loi qui touche l'immigration et qui fait débat depuis lundi. Côté Commission européenne, Arthur nous expliquera les nouveautés concernant l'Ukraine et la Moldavie. Euro 7, c'est le nom d'une nouvelle norme communautaire et c'est Pierre qui se chargera de décrypter tout ça. Anatole nous parlera préparation des JO et notamment des dernières polémiques concernant Tahiti. Enfin, Lino vous livrera toutes ses astuces pour bien écrire votre lettre de motivation. Mais d'abord, place au affluoté avec Paul.
Nouvelle campagne nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement le 9 novembre, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif. Tous les élèves du CE2 à la terminale seront invités à remplir un auto-questionnaire. Anonyme et non obligatoire, cette enquête se fixe un objectif d'évaluer le nombre de victimes, de quoi permettre aux équipes pédagogiques d'adapter si besoin la détection et la prise en charge de ces cas de harcèlement. Passionnés du blockbuster américain, Deadpool 3 et Gladiator 2 vont pouvoir reprendre leur tournage. Après 118 jours de grève, un accord a enfin été trouvé à Hollywood. Les détails de l'accord seront dévoilés dans les prochains jours et mettent fin à l'arrêt des grosses productions. Mais le syndicat des comédiens SAG-AFTRA a assuré que le texte aurait, je cite, « une portée extraordinaire ». N'aurait-on pas enseveli les soulèvements de la Terre trop tôt ? Dissous le 21 juin dernier en Conseil des ministres, le mouvement écologiste a vu son décret de dissolution annulé par le Conseil d'État ce 9 novembre. La dissolution a été qualifiée comme une menace non adaptée par les juges de la plus haute juridiction administrative. Un sacré revers pour le gouvernement, Gérald Darmanin en tête. Hachette a trouvé son acquéreur. Arnaud Lagardère a été nommé président-directeur général d'Hachette Livre, poids lourd de l'édition en France, numéro 1 du secteur et numéro 3 dans le monde. Le Parlement prépare déjà Noël. L'Assemblée nationale a voté une allocation supplémentaire de 115 à 200 euros pour les familles monoparentales précaires. Cette proposition socialiste devrait concerner environ 600 000 familles pour un coût de 70 millions d'euros. Un coup de pouce supplémentaire bienvenu à l'approche des fêtes de fin d'année. Attaqués sur leur laxisme, les géants américains du numérique réagissent. Pour lutter contre la pédopornographie en ligne, les firmes de la tech lancent le programme Lanterne. Ce dispositif de signalement collaboratif permettra de centraliser les comptes liés à la pédopornographie. Les plateformes adhérentes, Google, Meta, Twitch ou encore Discord, pourront ainsi signaler ou bannir les comptes problématiques afin de freiner l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne.
Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ! Mais qui elle est, celle-là ?
Quelle indignité.
Le projet de loi sur l'immigration initié par Gérald Darmanin est arrivé lundi au Sénat. C'est LE texte qui risque d'enflammer la fin de l'année au Parlement, Solène.
Eh bien oui, le projet de loi sur l'immigration est enfin arrivé au Sénat lundi, avec plus de 7 mois de retard sur le calendrier initial du gouvernement. L'examen de ce nouveau texte législatif vise à restreindre l'immigration en France et à faciliter les expulsions tout en régularisant les sans-papiers travaillant dans les métiers sous tension.
On note beaucoup de changements en cette fin de première semaine.
Plusieurs mesures ont été votées, et notamment la fin de l'aide médicale d'État, un dispositif d'accès aux soins réservé aux étrangers en situation irrégulière. Désormais, il s'agira seulement d'une aide médicale d'urgence, réduite aux maladies graves, aux grossesses et aux vaccinations. Autre mesure phare qui concerne l'intégration des immigrés par le travail, le Sénat a voté pour la fin de l'article 3 qui permettait d'octroyer un titre de séjour de plein droit aux travailleurs sans papier dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Désormais, l'article 4 bis prévoit un titre de séjour accordé par les préfets au cas par cas et à titre exceptionnel.
Je crois savoir que le droit aux allocations familiales est également touché.
Là aussi, gros débat, le Sénat a voté la fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne s'est pas opposé à cette proposition, mise en tout sur la carte du compromis avec la majorité sénatoriale. À noter que tout n'est pas définitif, la mesure doit encore passer devant l'Assemblée.
Depuis l'attaque terroriste perpétrée en Israël par le Hamas le 7 octobre dernier, les violences visant les Juifs se multiplient en France. Une marche contre l'antisémitisme est donc prévue dimanche à Paris.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ont lancé un appel pour une grande marche contre l'antisémitisme dimanche entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg. Tous les partis de l'échiquier politique ont annoncé leur présence, sauf la France Insoumise qui a exprimé son refus de défiler aux côtés du Rassemblement National. Et pour cause, Jean-Marie Le Pen a plusieurs fois été condamné pour des propos antisémites. Le RN n'a pas sa place dans cette manifestation, a affirmé Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
Une nouvelle mesure attractive a été lancée par Aurore Berger. Il s'agit du congé familial.
Elle avait lancé le débat cet été et c'est désormais officiel. La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, a annoncé ce mercredi 8 novembre la création d'un congé familial dès 2025 en complément du congé parental existant. Les parents pourront désormais prendre ce congé familial à la naissance d'un enfant ou pour une adoption, en même temps ou l'un après l'autre, à temps plein ou à temps partiel. Si pour le moment, aucun montant d'indemnisation n'a été annoncé pour cette mesure, la ministre assure qu'il doit être bien mieux rémunéré que le congé parental actuel, dédommagé à hauteur de 429 euros par mois.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you. Be proud of you.
La Commission européenne recommande l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, une décision plus qu'attendue par les chefs d'État concernés.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé publiquement, ce mercredi, recommander l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Un sujet qui a longtemps été un point de discorde avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui en faisait la demande depuis le début du conflit avec la Russie. Il a d'ailleurs immédiatement salué la décision des commissaires européens, une déclaration qui fait écho à celle de la présidente moldave Maia Sandu, qui déclarait que son pays est fermement engagé sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et continuera à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif.
Avancée majeure pour Volodymyr Zelensky peut-être, mais n'est-ce pas finalement une annonce en trompe-l'œil ?
Plutôt oui. Pour le moment, rien n'est réellement fait, mais si la Commission européenne a vivement recommandé l'adhésion de ces deux nouvelles nations, le processus d'accession reste encore semé d'embûches. La proposition devra tout d'abord passer par un vote à l'unanimité des 27 chefs d'État européens qui se déroulera à Bruxelles les 14 et 15 décembre prochains. Même si, d'après les observateurs, l'immense majorité devrait soutenir la décision de la Commission, la Hongrie pourrait jouer les fauteurs de troubles et faire entendre une voix discordante.
Des négociations entre les deux parties qui sont quand même connues pour être extrêmement longues.
C'est vrai, ces négociations peuvent s'éterniser et durer des années, voire même une dizaine d'années si aucun accord n'est trouvé. Si l'on regarde de plus près, 6 pays des Balkans patientent déjà dans l'antichambre de l'Union européenne depuis de nombreuses années. L'Albanie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine ou encore le Kosovo sont en négociation avec l'exécutif européen depuis presque 10 ans pour certains. Mais d'après les déclarations d'un haut fonctionnaire européen dans la presse, la Commission serait bien décidée à aller le plus vite possible au vu de la situation ukrainienne et moldave.
Autre décision marquante de la semaine, outre-Atlantique, les électeurs de l'Ohio ont décidé de voter en faveur du droit à l'avortement.
Remis en question à maintes reprises par les conservateurs, l'IVG remporte une bataille dans l'Ohio. Les électeurs de l'État républicain ont approuvé mardi un amendement constitutionnel visant à protéger le droit à l'avortement et à la contraception. Une véritable victoire pour le camp progressiste à seulement un an des présidentielles de 2024. Un oui qu'il emporte avec 55% des voix, d'après les projections du New York Times, un vote qui fait suite à une décision de la Cour suprême américaine datant de l'été 2022 qui remettait en cause le droit fédéral des Américaines à interrompre leur grossesse.
Retour en Europe, le Portugal plongé dans la tourmente après la démission surprise de son Premier ministre.
Éclaboussé par une affaire majeure de corruption liée à l'extraction du lithium, le Premier ministre socialiste António Costa, qui était pourtant au pouvoir depuis 2015, a préféré démissionner. Détournement de fonds, corruption de personnalités publiques ou encore trafic d'influence sont autant de faits qui lui sont reprochés et pour lesquels son chef de cabinet a d'ores et déjà été arrêté.
Et le ministre radical est en colère.
Combien ? This is Elon Musk.
Les 27 ont-ils octroyé jeudi un permis de polluer aux industriels ? Grand débat de la semaine au Parlement européen, la nouvelle norme communautaire Euro 7 sur les émissions des pots d'échappement de véhicules thermiques cristallisait les tensions entre lobbyistes et écologistes, Pierre.
Oui, plusieurs fois torpillé, adouci jusqu'en être vidé de sa substance initiale, la nouvelle réglementation européenne sur la pollution des voitures à horizon 2030, Euro 7, a été passée au crible par les eurodéputés. Déjà approuvée par la Commission européenne le 12 octobre, il s'agissait de la dernière étape avant adoption. Verdict, au grand regret des scientifiques et des écologistes, Un texte minimaliste, en réalité proche de celui déjà en vigueur, en est sorti vainqueur.
En septembre, les États membres avaient déjà refusé de durcir les normes sur les gaz d'échappement. Argument cette fois, la première version de la norme, plus drastique, risquait de freiner les investissements des constructeurs dans l'électrique.
Oui, les arguments économiques des grandes marques automobiles ont finalement eu raison des intérêts sanitaires européens. Pas de réduction significative des émissions de particules fines. Libération nous apprenait récemment que Stellantis et Renault en tête de proue s'étaient associés par coup de pression et déjeuner secret pour démanteler la fermeté de la nouvelle norme. À ne pas négliger dans la lecture du vote les 80 millions d'euros distribués par la Commission pour aider à financer les recherches sur la réduction de la pollution. Oui, mais voilà, au final, l'adoption de cette version light, dira-t-on, d'Euro 7, serait responsable d'ici 2050 d'environ 100 milliards d'euros de dégâts sanitaires et environnementaux.
Et que retenir finalement de cette directive ?
Eh bien, malheureusement, pas grand-chose, si ce n'est une confirmation de l'abaissement des seuils d'émissions de particules fines pour les poids lourds, aussi l'introduction de limites pour la première fois en Europe aux émissions provoquées par l'usure des freins et des pneus. En d'autres termes, et pour reprendre les mots de Karima Delli, députée européenne, ce texte est un immense gâchis. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la pollution de l'air due à ces particules est responsable des décès d'au moins 238 000 personnes par an dans l'Union européenne.
Si l'intérêt des institutions pour la santé publique européenne chute, cela reste relatif à côté de l'effondrement d'une licorne des bureaux partagés.
WeWork cesse son activité lancée en fanfare au tournant des années 2010 avec un concept plutôt novateur. L'entreprise de coworking n'est jamais parvenue à atteindre la rentabilité promise. Valorisée à plus de 47 milliards d'euros en 2019, la firme américaine ne vaut aujourd'hui plus rien et a donc déposé le bilan lundi. WeWork cumule près de 3 milliards de dettes, mais pas de panique, elle devrait être convertie en actions d'après son PDG au nom évocateur, David Tollé.
À l'image de WeWork, l'avenir du pouvoir d'achat des Français n'est pas au beau fixe d'après une étude de l'INSEE.
Ouais, dans cette affaire, il faut voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, car si les salaires nets ont bien augmenté dans le privé en 2022, la hausse des prix à la consommation a largement balayé cette légère éclaircie. Le salaire net moyen en euros constants, c'est-à-dire en prenant compte de l'inflation, a diminué de 1% dans ce secteur en 2022. C'est le plus fort recul depuis 25 ans. Pour être concret, le salaire moyen dans le privé s'établit à 2630 euros et n'évoquons pas celui des femmes qui touchent en moyenne 14,1% de moins que les hommes.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
Zoom sur le Pacifique, à moins d'un an des JO de Paris. La maire Anne Hidalgo continue de créer l'indignation après son voyage à 15 000 km de la capitale.
L'affaire a fait grand bruit ces dernières semaines. Et pour cause, le 15 octobre dernier, l'élu, deux de ses adjoints et trois collaborateurs se sont rendus en Nouvelle-Calédonie. Cérémonie officielle et rencontre d'élus locaux s'enchaînent et la délégation s'envole ensuite pour la Polynésie française. Anne Hidalgo avait rendez-vous le 21 octobre à Papeete pour visiter les infrastructures sportives qui devront accueillir les épreuves de surf aux Jeux Olympiques de 2024. Mais problème, la situation sur place est tendue et elle décide d'y envoyer son adjoint au sport, Pierre Rabadan.
La maire de Paris a donc changé ses plans une fois sur place.
Et c'est là que ça coince. Anne Hidalgo a choisi ce moment pour effectuer un voyage privé de 15 jours. 15 jours de congé pour rendre visite à sa fille qui s'installait à ce moment-là là-bas. Ce changement de programme a provoqué un scandale dans la mesure où le déplacement de l'élu a coûté plus de 40 000 euros de transport et environ 18 000 euros d'hébergement et de restauration. L'hôtel de ville de Paris explique dans un communiqué que la partie « privée » du voyage a été, je cite, intégralement prise à sa charge. Et son retour par avion le 5 novembre aurait également été payé à ses frais. Mais malgré les justifications, la polémique ne désemplit pas et l'opposition pointe toujours du doigt le fait que son voyage n'a pas rempli sa fonction qui était visiter le chantier des JO.
Un déplacement polémique certes, mais les projets d'infrastructure sont aussi au cœur de vives manifestations à Tahiti.
Oui, la décision de Tony Estanguet d'organiser les épreuves de surf à Tahiti fait des vagues. Pour l'occasion, une nouvelle tour réservée aux juges de la compétition devrait être construite au milieu du lagon du mythique spot de Tiopoho. Tout neuf, l'édifice en aluminium de 14 mètres de haut comportera une salle climatisée pour les serveurs internet, reliée au rivage par câble sous-marin, des toilettes avec un système d'évacuation relié cette fois aux canalisations de la ville la plus proche, et tout ça pour un coût de 4,4 millions d'euros. Pour les opposants au projet, cette nouvelle tour serait, je cite, « une catastrophe ».
Cette tour devrait d'ailleurs remplacer une construction en bois déjà existante sur place.
Et c'est vrai que les travaux de la nouvelle infrastructure font peur, car ils risquent d'entraîner des dégâts sur l'écosystème, avec la flore et la faune sous-marine en première victime. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a tenté de rassurer la population en invoquant un retour à l'ordre dès la fin de la compétition. Mais rien n'y fait, si le chantier n'a pas encore commencé, des manifestations ont déjà réuni des centaines de personnes et une pétition en ligne a recueilli plus de 150 000 signatures. Un luxe et un confort inutile au prix trop élevé selon les opposants au projet, quand le comité d'organisation avance de son côté des raisons de sécurité. Affaire à suivre.
Côté culture, le monde littéraire est en émoi après l'annonce du nouveau prix Goncourt.
Et oui, Veille sur elle, c'est le nom du livre qui a remporté le prix Goncourt de cette année 2023. C'est le quatrième roman de l'auteur Jean-Baptiste Andrea qui nous embarque cette fois dans l'Italie du XXe siècle pour vivre une histoire d'amour et de mystère de presque 600 pages. Pour rappel, le prix Goncourt, c'est l'une des plus prestigieuses récompenses pour un écrivain français et une assurance de voir son livre s'écouler à plusieurs millions d'exemplaires.
On trépignait d'impatience, on connaît désormais le nom de la personne qui représentera la France à l'Eurovision 2024.
Il s'agit de Slimane, un artiste qui n'a plus rien à prouver et qui était notamment connu pour ses featurings avec la chanteuse Vita. Il interprétera le titre « Mon amour » pour cette 68e édition qui se déroulera en Suède. Pour rappel, l'année dernière, la France avait fini 16e du classement. On lui souhaite donc bonne chance.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Quelques difficultés dans la rédaction de ta lettre de motivation. Pas de problème, Lino, tu détiens les clés pour réussir cette dernière. Et tu nous expliques les bonnes astuces.
Elle est essentielle. Cette lettre est faite pour crédibiliser ta candidature. Il faut montrer que ta place est là et pas ailleurs. En général, on conseille aux étudiants de faire deux parties. La première répond à la question « Pourquoi vous devez me prendre ?» et la deuxième « Pourquoi votre école est celle qui me convient le mieux ?» À la fin, on doit comprendre que toi et l'école ensemble, ça va matcher. Pour bien commencer, il te faut d'abord une accroche originale et marquante. Par exemple, ça peut être une anecdote sur le moment où tu as compris que tu voulais être journaliste. Ensuite, tu peux dérouler sur ce qui t'amène ici pour montrer que ton parcours est d'évidence linéaire et va se poursuivre en école de journalisme.
Mais si par exemple on a fait des études de médecine ou de maçonnerie, comment tu rendrais ça cohérent toi ?
Même si tu as décidé hier que tu voulais être journaliste, décèle une cohérence liant ton parcours avec le journalisme. Ça peut passer par des projets personnels ou des situations que tu as rencontrées dans tes études, qui t'ont donné envie de t'orienter vers le journalisme. Je m'explique, pour un mémoire, tu devrais interviewer des experts et ou faire une enquête. À toi de te creuser la tête pour arriver à bien le formuler. Attention, quand tu parles de ton parcours, ne fais pas une liste du style « j'ai passé un bac S, ensuite j'ai fait ça, puis ça ». Le jury a déjà ton CV sous les yeux. D'ailleurs, pour te rassurer, ce qui compte, c'est pas l'expérience en soi. Que tu aies fait un stage de 2 mois au Monde ou que tu aies travaillé à McDo, montre l'intérêt de l'exemple. À la fin de ta première partie, tu peux parler de ton projet professionnel, ce que tu souhaites faire après l'école. C'est souvent plus compliqué, je te l'accorde. C'est pour ça que je te conseille dès maintenant de te renseigner sur un type de journalisme ou un domaine qui te séduit. N'hésite pas à contacter des journalistes concernés.
Ok, et comment on justifie nos vœux d'école ? Parce qu'avec les 14 reconnus, on peut vite être perdu.
Là encore une fois, tu vas devoir te renseigner. Contacte des étudiants qui pourront te parler de leur travail quotidien. Pour ce qui est de l'EJT, tu as le compte Insta EJT Raconte, dans lequel les étudiants expliquent les cours qu'ils ont et à quoi ça ressemble. L'idée est de dire « ce cours, ce projet, ce média étudiant m'intéresse, c'est ce que je cherche » et en plus, quel hasard, c'est totalement cohérent avec mon parcours ou avec mes centres d'intérêt.
Et certains pièges peuvent être facilement évités.
D'abord, ne jamais rester trop vague. Tu dois donner des exemples précis, ne pas hésiter à raconter des anecdotes ou des situations qui doivent être utiles. Ensuite, fais gaffe à ne pas te survendre. L'école existe pour t'apprendre des choses, donc qu'importe tes expériences, ne fais pas comme si tu savais déjà tout. Enfin et surtout, oublie les lettres trop formelles, trop ennuyeuses. Dis-toi que le jury va lire 1000 lettres de motivation. L'objectif est de se distinguer sans pour autant tomber dans l'excentricité. Ce n'est peut-être qu'une lettre, mais elle donne des indices au jury sur ta personnalité et ça jouera beaucoup pour ta sélection pour l'oral.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On espère que vous avez apprécié ce temps en notre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ActuVu. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bonne semaine à tous !